Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre Rachel Marsden. Qui a peur de Donald Trump? Il est difficile d'être un leader fort dans une ère de progressistes insistant sur la destruction de la société. Refusant de faire des compromis face à la tyrannie de la soi-disant réforme progressive est difficile dans un ère où tant de dirigeants permettent à leur pays de se désintégrer sous le prétexte de la bienfaisance. À la suite des récents attentats terroristes de l'État islamique en Belgique, qui ont tué au moins 35 personnes et blessé plus de 300 autres, la police belge a lâché un canon à eau sur environ 200 manifestants anti-immigrants rassemblés près d'un mémorial improvisé à Bruxelles. Le maire de Bruxelles, Yvan Mayer, a dit qu'il était consterné que ces voyous, et c'est-à-dire les manifestants anti-immigrants, sont venus pour provoquer les résidents sur le site de leur mémoire. Mayer a apparemment du mal à comprendre le fait que les gens en Belgique et dans toute l'Europe ont bien marre du djihadisme qui a fleurissé sous le nez des autorités sous prétexte de la diversité à tout prix. Les manifestants de Bruxelles représentent tout simplement la pointe d'un iceberg beaucoup plus profond au sein de la population générale en Europe. Comment la majorité du grand public, qui a tendance à être plus réservée, pourrait-elle exprimer son mécontentement d'une manière démocratique lorsque les options électorales sont effectivement limitées aux partis qui conformeraient tout simplement au statu quo de la désintégration progressive, puisque tout autre est marginalisé et appelé un extrémiste? Maintenant, dans ce contexte, considérons celui qui est en tête de la course du côté républicain des présidentielles américaines, Donald Trump. Il est souvent appelé « dangereux » pour avoir dit qu'il construirait un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher les immigrants sans papier d'inonder son pays. Trump a également publié une déclaration en décembre dernier appelant à un arrêt total et complet des musulmans entrant aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de son pays pourraient comprendre ce qui se passait. La position politique est claire. L'Amérique sous une présidence Trump refuserait de jouer à la roulette russe avec la sécurité intérieure. Et en parlant de Russes, l'armée syrienne vient de reprendre la ville de Palmyre de l'État islamique, en grande partie grâce à l'appui aérien russe et l'aide des forces spéciales russes. Mais le monde a une drôle de façon de montrer sa gratitude envers le président russe Vladimir Poutine et le président syrien Bachar al-Assad pour leurs efforts visant à exterminer les terroristes meurtriers. Ils appliquent souvent aux deux hommes l'étiquette peu flatteuse de « homme fort ». Certains accusent même Assad d'avoir permis au terrorisme de prendre racine dans son pays, ce qui pourrait rendre Assad le seul leader mondial d'être vraiment tenu responsable d'avoir laissé fleurir des terroristes islamistes dans son pays. Les États-Unis et ses alliés du Golfe voulaient dégager Assad du pouvoir afin qu'il puisse récupérer des avantages géoéconomiques qui viendraient avec le contrôle de la Syrie. Donc, ils ont armé et entraîné les soi-disant rebelles pour combattre et désactiver Assad et son armée. Mais la campagne prolongée contre Assad a permis à l'État islamique à germer comme un champ de mauvaises herbes, car Assad était préoccupé par sa propre survie. Alors, qui est-il, Bachar al-Assad? C'est un dictateur impitoyable? Ou bien c'est une mauviette inutile? C'est lequel? L'étiquette a tendance à changer toutes les 5 minutes. Les critiques ont aussi tenté de vendre l'idée farfelue que Poutine a prolongé la guerre contre l'État islamique en Syrie afin de conduire les migrants vers l'Europe. Poutine est à peine responsable d'un conflit qui a fait rage dans la région quelques années avant même que la Russie soit arrivée sur scène avec le but d'y mettre un couvercle. Il n'est pas non plus la faute de Poutine que l'Union européenne a permis aux migrants d'inonder ses pays membres. Pourtant, il est plus facile de blâmer l'homme fort. Hein. Quand même, il joue un rôle essentiel en essayant de vaincre l'État islamique que d'accepter la responsabilité pour le fait que vos propres politiques de gauche ont échoué. Il est facile pour les dirigeants d'esquiver la critique en étant eux-mêmes faibles et incontrôlables. Mais c'est toujours saison ouverte hein, sur les leaders forts qui résistent et dénoncent les régimes progressistes et subversifs destinés à secouer le statu quo. La tyrannie d'aujourd'hui ne vient pas sous la forme de l'homme fort comme Donald Trump, Vladimir Poutine, Bachar el-Assad. Au contraire, la tyrannie existe au sein de la sorte de faiblesse qui garantit la transformation rapide et antidémocratique d'une société contre la volonté de son peuple. Avec moi aujourd'hui, pour discuter de tout ça, Charles Rau est fondateur de Cicéon, une société basée à Paris, spécialisée dans la fourniture et l'analyse de l'information et dans les conseils stratégiques. Bienvenue à l'émission, Charles.
Oui, bonjour Rachel, je vous remercie de votre invitation.
Merci. Alors, pourquoi d'après vous, on dit que ces gens-là font peur ?
J'aborderai d'abord Donald Trump sur une note plus positive en vous disant que, en dépit de l'hystérisation, même la coiffure de Donald Trump ne fait pas si peur que cela. En fait, pour répondre à votre question, tout dépend toujours du point de vue. Si vous êtes un habitant de l'Illinois ou de Pennsylvanie, Trump est pour vous plutôt le chevalier qui va redresser l'Amérique. Par contre, si vous êtes un Parisien ou un Berlinois qui regarde de loin, sans connaître la réalité de tous les jours de l'Américain moyen, et que vous êtes guidé par l'émotion médiatique plutôt que par de l'information objective, alors là, en effet, Donald Trump peut vous faire peur.
Ce qui me frappe vraiment, c'est le fait que Donald Trump, il est très clair dans ce qu'il dit. Il dit les choses d'une manière assez forte. Il est très autoritaire dans sa façon de parler.
Oui.
Mais quand même, il y a des gens qui prennent ça et qui croient qu'il va envahir des pays. Par contre, sa politique étrangère est très anti-interventionniste. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ne voient pas le décalage.
Alors justement, le fait que les gens ne voient pas ce décalage découle d'un problème de perception. C'est-à-dire que pour comprendre et analyser l'information telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit, il s'agit de sortir du cadre idéologique, dogmatique, ou je dirais de la narration mainstream. C'est-à-dire que on essaye de vous imposer un point de vue à travers les médias, et il faut savoir en sortir et avoir un point de vue plus objectif. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement d'accord, pour pouvoir analyser les phénomènes politiques. C'est pour ça que la grosse erreur, et je crois qu'il faut partir de ce postulat pour bien comprendre pourquoi Donald Trump attire tant la critique, c'est qu'on part, surtout en Europe, du postulat que les électeurs de Trump sont soit des imbéciles, soit des naïfs, soit les deux. Alors qu'en fait, c'est cette affirmation qui est imbécile ou naïve.
Oui, mais je me demande pourquoi les gens croient. C'est quoi qui cause ce phénomène-là? Je me suis demandé plusieurs fois. Pourquoi est-ce que on prend le fait qu'il y a un milliardaire qui est self-made, qui a créé son entreprise, qui a grandi son entreprise, qui a son nom sur les immeubles partout dans le monde? Et en traduction, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui croient que pour soutenir un mec comme ça, il faut être con. Je comprends rien.
Non, mais ça c'est une perception parmi d'autres. Sauf que c'est la perception qui est vendue, marketée et distribuée.
Par qui? Par les médias?
Par un courant médiatique dominant, à tort ou à raison, qui vous propose un point de vue préparé et tout prêt. Et en fait, pourquoi Trump fait peur? Il fait peur pour deux raisons. La première, c'est qu'il est hors système. Et la deuxième, et c'est quand même la plus importante, et c'est ce qu'on veut absolument nier, c'est qu'il est en mesure de gagner. Et le fait que Trump puisse gagner, ça n'était pas prévu au menu. Et comme vous savez, dans tous les systèmes, ce qui est le plus redouté, c'est l'imprévu. Et c'est Trump de l'imprévu.
Ouais, mais voilà. C'est censé être comme ça, la politique. On oublie vraiment que la démocratie, c'est vraiment la chance à tout le monde de venir au pouvoir. Alors, quand on a quelqu'un, du coup, qui est un homme d'affaires, qui ne vient pas du système de Washington, qui réussit, comme lui réussit en ce moment, on ne devrait pas avoir peur de ça, je pense, parce que c'est ça le système, c'est ça l'essentiel du système démocratique.
Rachel, j'aurais un point de vue un peu plus nuancé que vous pour dire deux choses. Trump, en effet, fait peur, mais il a aussi apporté de l'eau au moulin. Hein, et notamment ces deux dernières semaines, le moulin a tourné un peu trop vite et je crois qu'il serait judicieux pour sa campagne.
Ça veut dire quoi exactement?
Sur le frein.
Bon. Sur quel point?
Mais c'est sur les points comme par exemple sur l'avortement, sur le fait que le Japon devrait se doter de l'arme nucléaire. Je pense que c'est là-dessus. Je pense que c'est aussi de la part de Trump du marketing. D'ailleurs, ça marche très bien. L'objectif étant de garder l'attention des médias sur lui. Donc, d'un côté, vous avez Trump qui alimente la machine, et il a raison, puisque ça marche. Et de l'autre, vous avez cette vision de système, et non pas de démocratie, de système, qui est que, certes, la démocratie existe, mais dans certaines limites. À partir du moment où cette démocratie, je dirais, ne vient pas bouleverser le fonctionnement systématique ou systémique de l'environnement politique dans lequel nous vivons depuis longtemps.
Ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'il y ait des gens qui préfèrent qu'on leur ment gentiment au lieu de leur dire la vérité d'une manière directe.
Alors, en fait, là aussi, c'est pareil. Pour vous, ce sera la vérité. Pour d'autres, ce ne sera pas la vérité. Alors, il est patent qu'il y a un manque de réalisme et de réalité dans l'analyse politique qui est faite par nos dirigeants. Ça, c'est sûr et certain. On est dans un contexte où le dirigeant ne doit pas être un homme fort, il doit être un homme de compromis et un homme gentil. Le problème, c'est lorsque vous avez affaire à des adversaires ou à des personnalités hostiles qui, elles, ne sont ni dans le compromis ni dans la gentillesse. Et à partir de ce moment-là, il faut changer de paradigme, il faut changer de fonctionnement, il faut revenir au fonctionnement primaire de l'histoire avec un grand H. Le général de Gaulle avait pour coutume de dire que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je crois que c'est ce point de vue que nous avons oublié et que Trump, d'une certaine façon, remet au goût du jour. Par exemple, quand Trump dit « Moi, je suis prêt à travailler avec Vladimir Poutine », il ne dit pas « J'adore Vladimir Poutine et je suis soumis à Vladimir Poutine. » Il dit « Les solutions d'aujourd'hui ne fonctionnent pas, essayons autre chose. » C'est ça le réalisme.
Oui, mais il y a trois choses ici. Il y a trois choses ici. Il y a le président des États-Unis qui a sa propre manière de fonctionner, de dire des choses. Ensuite, il y a le système. Ça veut dire les agences, la politique américaine officielle. Et puis, troisièmement, il y a la politique à l'intérieur de ces structures-là, qui est complètement différente. Par exemple, la politique de la CIA, l'agence de renseignement américain civil, est différente de la politique à l'intérieur du département de l'État, qui est différent de la politique à l'intérieur du renseignement militaire américain. Alors, c'est complètement différent.
Alors, il est vrai que il y a des fonctionnements différents, des personnalités différentes et des traditions différentes. Mais j'établirais justement une différence entre l'État élu et ce qu'on peut appeler l'État profond. Mmh. L'État profond, c'est l'État qui reste quand les présidents passent et se succèdent. Par exemple, récemment, un camarade, Scott Henninger, que vous connaissez bien, et dont Cicéon a publié un article en français sur le renseignement et le politique, exprime un point de vue qui est partagé, en fait, au fond, par la plupart des organes d'État, que ce soit la CIA ou d'autres agences, selon lequel la politique poursuivie par les responsables élus ne correspond pas à la politique que voudrait poursuivre l'État profond. Et cette dissension, cette ligne de fracture qui existe entre les élus et l'État profond, c'est un paramètre fondamental dans l'élection présidentielle qui se déroule aux États-Unis, et ça risque aussi d'être un paramètre fondamental pour les prochaines échéances électorales en Europe, notamment en 2017.
Vous parlez là d'un ancien... Oui, vous parlez là, juste pour dire à l'audience, vous parlez là de l'ancien chef de station de la CIA qu'on connaît tous les deux. Et je comprends ses frustrations avec le fait que, avant tout, la CIA et les autres agences de renseignement américains sont des administrations. On oublie tout ça. Il y a des fonctionnaires à l'intérieur d'une administration et on a cette idée de James Bond, mais on frappe toujours contre le mur de l'administration américaine.
Là-dessus, j'ai un avis un peu plus partagé, parce que au fond de ces systèmes où les gens font carrière quand même en général un certain temps, il y a de plus en plus une différence entre l'objectif poursuivi par la politique étrangère américaine, par exemple, qui est de faire de la Russie l'ennemi principal, alors que dans les agences de renseignement, il y a tout de même le consensus que la vraie menace, c'est le terrorisme. Par exemple, ce matin, je discutais avec divers responsables qui me rappelaient l'importance et l'imminence éventuelle d'une attaque non conventionnelle, directe ou indirecte dans son mode opérationnel, avec des armes chimiques. Non. L'urgence, elle est là.
Oui, mais réellement, mais vous savez autant que moi que vraiment la vraie menace à n'importe quel temps, c'est ce qui pourrait nous fournir le plus de ressources à n'importe quel moment. Que ça soit la cybersécurité, que ça soit le terrorisme ou bien autre chose. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir le max du fric de la part du gouvernement fédéral maintenant? Alors, c'est quoi la menace qui va vendre dans ce sens?
Il y a des paramètres budgétaires qu'il faut traiter, et c'est pas une tâche facile. Hein. Je pense que les directeurs d'agences, que ce soit la DIA, la CIA ou d'autres, ont fort à faire avec l'administration et les commissions du Sénat pour obtenir les budgets nécessaires. Mais de l'autre, il y a aussi beaucoup de personnels qui sont convaincus dans l'accomplissement de leur mission et qui ne cherchent pas nécessairement à obtenir plus de budget, mais à poursuivre des objectifs qui sont réalistes et utiles à la sécurité nationale.
Non, mais vous savez, la FBI, qui est l'agence de renseignement domestique aux États-Unis, il n'avait pas au début un rôle dans la lutte contre le terrorisme, sauf sur le sol. Mais tout le monde qui était recherché, tous les suspects du terrorisme mondial, étaient à l'étranger. Alors ça, c'était la juridiction de la CIA. Alors la FBI s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir une partie de ce budget? Et ils étaient fâchés parce qu'ils n'avaient pas les ressources de la CIA à la suite du 11 septembre. Du coup, le gouvernement fédéral a dit, OK, on vous charge de la liste des plus recherchés. Alors maintenant, la FBI est en train de rechercher les plus grands suspects du terrorisme dans le monde entier depuis leur rôle domestique. Et il y a une seule raison pour ça, c'est parce qu'ils voulaient les ressources gouvernementales liées à la lutte contre le terrorisme. Alors c'est ça le rôle de l'administration, ça ne fait aucun sens. Et quand je suis, par exemple, si je suis quelqu'un qui travaille au sein de ces services-là, il faut que je me demande comment est-ce que je vais pouvoir fonctionner d'une manière logique quand c'est pas logique dans ce sens.
Ah c'est sûr que quand tout en haut de la structure c'est pas logique, il est sûr que ça, malheureusement, ça se répercute sur le reste.
Oui, en plus ce qui se passe aussi, c'est qu'il y ait des cas. On se demande, est-ce qu'il y a vraiment une vraie menace terroriste au sein du sol, sur le territoire américain? Parce qu'on voit souvent qu'il y ait des cas où il y a quelqu'un qui, je sais pas, un jeune un peu farfelu, qui rentre dans ce que j'appelle le laboratoire de la FBI, laboratoire terrorisme de la FBI. On lui donne des indices, on lui donne des machins, est-ce que vous voulez planifier une attaque, et le mec dit ah ouais c'est d'accord, et on le pousse à le faire, et du coup boum, on dit voilà, on a attrapé un terroriste. Mais c'est quelqu'un qui était développé dans le laboratoire de la FBI. Là, s'il faut faire des choses comme ça, je me demande, c'est où les vrais terroristes sur le sol américain? Il doit y en avoir, pourquoi est-ce qu'on les attrape pas?
Alors il y a deux choses quand même, il y a deux phénomènes. Je pense que dans la plupart des cas où le FBI a arrêté des individus, je crois que c'était dûment justifié et que c'était mené avec une certaine méthode qui, par exemple, n'existe pas en général en Europe, ce ne serait pas recevable. Mais toutefois, lorsque vous regardez un petit peu comment ça a été fait, il faut quand même une certaine détermination pour en arriver à je dirais au stade quasi opérationnel où là on vous met les menottes.
Mais donc, il y a quand même des gens qui sont susceptibles à des choses comme ça, et on peut les pousser. S'il y a des gens qui les poussent à faire des choses, ils vont les faire, même s'ils n'avaient pas l'intérêt de le faire avant. Je suis pas complètement convaincue que ce serait le cas, que si on le laisse toute seule, il le ferait.
Écoutez, là-dessus, je ne connais pas assez bien le FBI pour répondre à cette question. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que la menace terroriste, elle est réelle aux États-Unis.
Non, je suis d'accord.
On n'attrape pas les bons terroristes, dites-vous. Eh bien, je vous répondrai qu'en fait, ces dernières années, il y a eu une professionnalisation du terrorisme Vous avez d'un il y a deux tendances. Vous avez une tendance un peu plus amateur, c'est celle qui sème vraiment la terreur parce qu'elle est tout à fait imprévisible, elle peut venir de partout, et vous avez une frange beaucoup mieux entraînée, beaucoup plus expérimentée, beaucoup moins visible, et qui n'a pas encore commencé, je pense, son l'accomplissement de ses objectifs. C'est pour ça que je serais très prudent quant à la menace terroriste aux États-Unis. Je pense qu'elle existe. Je crois qu'il y a des points d'entrée aux États-Unis.
Ouais, moi je suis convaincu aussi que.
Regardez comment on peut rentrer depuis.
Je suis convaincu aussi que ça existe, mais en même temps, oui. Je me demande pourquoi on n'attrape pas les vrais terroristes. S'ils existent, pourquoi est-ce que les gens qui font partie du financement terroriste ne sont pas attrapés? On n'entend jamais parler de ça. Pourquoi est-ce que on n'entend pas parler des gens qui sont attrapés, qui sont déjà sur les listes de surveillance? On n'entend jamais parler de ça. Alors, soit ça arrive sans qu'on en parle, ou bien ils n'ont pas assez pour justifier le budget qu'ils ont. Ouais. Revenons, par contre, au sujet de Donald Trump.
J'aimerais juste dire une chose, Rachel. Il y a quand même un point essentiel. Le renseignement n'a pas vocation à être ouvert. Le renseignement a vocation à être secret et discret.
Ils aiment annoncer les victoires. Non, mais... Quand ils ont des victoires...
Mais la plupart, on n'en entendra jamais parler.
Mais ça pourrait être aussi un bon prétexte pour dire on a beaucoup fait, mais on peut pas vous en parler. Alors, on ne sait pas ce qui arrive vraiment.
Je crois qu'en grande partie, c'est exactement ce qui se passe.
Ok. Alors, pour revenir à Trump et sa politique dans tout ça... Trump, dit vouloir faire payer les pays d'OTAN pour le soutien militaire des États-Unis. Cela me paraît être quelque chose qui devrait plaire à ceux qui sont contre une politique étrangère américaine interventionniste. Qui serait contre une telle politique? Parce qu'apparemment, on l'appelle toujours un dangereux.
Alors, par rapport à la proposition de Trump, moi je pense qu'elle est à la fois un peu démagogique et inapplicable. Certes, sa proposition va plaire aux partisans du non-interventionnisme, mais en pratique, je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin que l'annonce. J'entends par là que l'appareil militaire américain, c'est quand même un monde à lui seul, et même un président élu pour 4 ans n'y pourra pas grand-chose, parce que pour modifier à ce point l'architecture militaire américaine, ça nécessiterait à la fois toute la détermination de l'exécutif, associée quand même à une certaine unanimité de la part du corps législatif et notamment du Sénat. Et vu le personnage Trump, s'il était élu président, je doute qu'il y ait l'unanimité, je dirais qu'il y ait l'alliance entre l'exécutif et le législatif pour mener ou forcer le Pentagone et les autres structures à modifier complètement la politique.
Je ne pense pas qu'il veut le dire d'une manière comme ça. Je pense qu'il veut plutôt dire que c'est pas trop symbolique, mais dans le sens que si on continue à donner de l'argent à l'OTAN, on veut quelque chose de retour. C'est pas nécessairement quelque chose un quid pro quo, par exemple. Mais c'est comme la proposition de mur. C'est pas on va faire payer le Mexique pour ça, mais ou bien même le fait qu'on va faire construire un mur, c'est symbolique dans le sens qu'on va dire, lui il dit que je vais régler ce problème. Si moi je réussis à régler le problème, on s'en ficherait du mur.
Alors peut-être que Donald Trump, son objectif était de dire aux Européens, écoutez chers amis Européens, je vous invite très vivement à augmenter vos budgets militaires. Parce que c'est indispensable. Peut-être que c'est ça que Trump a voulu dire. Peut-être que c'est ça qu'il faut.
Ouais, on ne sait pas encore.
Bon, mais là où peut-être Trump aurait raison, ce serait de s'interroger sur la pertinence de l'OTAN dans sa forme actuelle. J'entends par là, et je ne dis pas que l'OTAN n'est pas une bonne chose. Je dis que actuellement, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont inadaptées et qu'il faut évoluer. Sinon, l'OTAN et l'infrastructure euro-atlantique risquent ce que j'appelle une déconstruction désordonnée et chaotique. C'est-à-dire que face à la multiplication des menaces, plutôt que d'avoir évolué et d'être prêt, eh bien tout ce système va se déconstruire de façon chaotique avec des conséquences qui peuvent être plus graves que ce qu'on imaginait au départ. Donc, concernant Donald Trump et l'OTAN, déjà les pays de l'OTAN n'ont pas les moyens de contribuer autant peut-être que Donald Trump l'espère. Ça, c'est clair. Il n'y a pas les moyens financiers. Par contre, peut-être le message, c'est de dire, écoutez, renforcez vos appareils militaires parce qu'il le faut. Oui. Voilà. Mais hors OTAN ou à l'intérieur de l'OTAN, c'est un constat que je partage. Je pense que les pays européens doivent augmenter leurs moyens militaires parce que le cycle actuel de crise systémique, et là je cite un ancien responsable de la DGSE, toutes ces crises systémiques qui arrivent, il va falloir les affronter et chaque pays doit aussi compter sur lui-même pour les affronter et pas seulement sur le soutien américain.
Ok, Charles Rau, fondateur de Cicéon, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Mais je vous en prie, merci beaucoup Rachel.
Et merci à vous de nous avoir rejoints. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur sputniknews.com ou desormondial.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.